Comme nous l'avons entendu dans les annonces, la fête des trompettes s'en vient. Et comme nous le savons, nous sommes le sabbat avant les trompettes. Je voulais donner quelque chose qui soit de la nourriture en temps convenable et en même temps, cela peut vous sembler ne pas l'être. Mais je pense que c'est le cas. Le christianisme diffère en tant que religion et des philosophies de ce monde. Notre foi est ancrée dans des affirmations historiques. Les gens débattent de l'importance de l'histoire dans les différentes croyances. Si vous regardez le bouddhisme, l'hindouisme ou d'autres religions, vous verrez qu'elles ont des histoires d'enseignants dans une certaine mesure. Les choses qu'ils ont enseignées ont été consacrées et rassemblées dans des livres. Beaucoup de religions sont basées sur certaines philosophies, sur les cosmologies. Mais le christianisme est enraciné dans une revendication historique. C'est-à-dire que nous disons qu'il y a eu un événement dans l'histoire qui a été miraculeux et véritable, que si vous pouviez remonter dans le temps, vous le verriez. Et il a laissé des preuves historiques. Il s'agit de la résurrection de Jésus-Christ. Nous croyons que c'est un événement qui s'est réellement produit. M. Frank a fait un demi-sermon à ce sujet il y a quelques semaines. J'étais très heureux qu'il le fasse, car c'est l'un de mes sujets préférés. Je lui ai dit que j'avais apprécié qu'il en parle, car c'est un événement central de notre foi. Et parfois, nous n'en parlons pas assez fréquemment. Pourtant, c'est vraiment important quand on pense au jour saint. Par exemple, qu'est-ce que la fête des trompettes? Nous croyons que Jésus-Christ va revenir. Les expiations. Nous croyons que Jésus-Christ va ordonner à ses anges de chasser le diable pendant 1000 ans. Qu'est-ce que la fête des tabernacles? Nous croyons que le royaume de Dieu va régner. Il y aura un millénaire dans lequel le Christ lui-même régnera et son peuple sera sous lui, sous ses ordres. Puis le dernier grand jour, nous croyons que comme le Christ a été ressuscité, comme nous aurons été ressuscités, d'autres sont ressuscités bien qu'à la vie physique pour avoir leur chance. Tout cela se produit pas si Jésus-Christ n'a pas été ressuscité de la tombe. Si ce n'est pas un fait historique, réel, si ce n'était pas réellement produit, alors tout cela n'est qu'une fantaisie. Il n'y a personne pour revenir des cieux pour conquérir les royaumes du monde. Il n'y aura pas une sorte de règne de 1000 ans. Tout cela est en mensonge, et notre foi n'est qu'une blague cruelle. Il y a de ceux de nos jours qui sont prêts à tout pour convaincre que c'est un mensonge. Maintenant, d'autres d'entre nous sont là depuis un certain temps. Nous pensons que notre foi est assez bien établie. Et il serait bien difficile de me convaincre, me diriez-vous, que Jésus n'a pas ressuscité des morts. Je sais qu'il le fut, je le crois. Il y a des générations plus âgées d'Américains qui prétendent le croire. Ils n'en connaissent pas tous les détails, ils ne comprennent pas que Jésus, comme nous, franchement, ils croient en la résurrection d'un faux Jésus, mais ils ne doutent pas nécessairement que le Jésus-Christ qu'ils croient soit ressuscité des morts. Mais au plus aux jeunes, plus ces affirmations font la différence. Vous êtes exposés aux écoles et aux philosophies de ce monde, et vous serez entouré d'enseignants qui ne croient pas que c'est un fait. Ils croient que c'est juste une partie de l'histoire de notre religion, tout aussi mythique que l'histoire de Thor, de Zeus et tout le reste. Ils croient que c'est une chose que les chrétiens ont inventée il y a longtemps et que nous sommes assez stupides pour croire. Et vous aurez des instructeurs, des professeurs qui essaieront de vous convaincre que c'est le cas. Ils sont très intelligents, très qualifiés. Et si vous y réfléchissez de leur point de vue, vous pouvez comprendre pourquoi quelqu'un pourrait penser ça. Nous pouvons considérer que nous croyons comme allant de soi parce que nous vivons dans une culture chrétienne. Et que les gens parlent de Jésus comme si ces choses étaient vraies, qu'il y avait quelque chose de miraculeux en lui. Mais si vous y réfléchissez bien, c'est en fait une histoire, une énorme prétention que de croire qu'il y a 1990 ans, un homme vivant en Judée a été exécuté, que son corps était un cadavre et qu'après 3 jours et 3 nuits entiers, il ne l'était plus et qu'il était vivant, exactement comme il l'avait dit. C'est une chose qui serait raisonnablement difficile à avaler pour beaucoup de gens, dont le plus grand témoignage est enregistré dans un livre dans lequel il y a aussi quelques serpents et des ânes qui parlent. Parfois, je pense que nous accordons pas assez le bénéfice du doute, surtout de nos jours, à ceux qui ne croient pas à ces choses. et que l'on ne reconnaît pas le type de culture dans laquelle ils ont été élevés pour douter de ces choses. Lorsque j'étais à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, je travaillais avec une jeune femme pendant que j'étais actuaire. Elle faisait partie de l'un de ces programmes accélérés. Elle a été stagiaire chez nous à 19 ans. Et je crois qu'elle a obtenu son diplôme à 20 ans. Elle avait littéralement été élevée pour être athée. C'est quelque chose qui aurait été un peu plus rare il y a quelques générations. Et en fait, il y a juste une génération. De nos jours, ce n'ont pas seulement les parents qui élèvent leurs enfants pour qu'ils ne croient pas nécessairement ces choses ou pour qu'ils en doutent. Maintenant, toutes les institutions ont tendance à être orientées à douter de ces choses. Pourtant, en ce même temps, encore une fois, si Jésus ne fut pas ressuscité, tout s'écroule. Et si c'est vrai, si cet homme était mort pendant 3 jours, est effectivement sorti de la tombe, tout est en jeu. Alors, tout ce que nous enseignons, c'est à peu près la chose la plus importante que l'on puisse enseigner dans tout ce que l'humanité a jamais entendu. Le jour des expiations représente vraiment cet être malveillant qui sera mis dans un abîme où il ne pourra pas s'échapper pendant 1000 ans. Et un être divin régnera sur le monde entier avec tous ceux à qui il a promis une position à ses côtés pour régner également. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes tous des imbéciles. S'il l'a fait, tout ce que nous enseignons et tout ce que nous savons est important. Cela dépend en quelque sorte de ce fait. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer brièvement, bibliquement, et plus en détail, à quel point il est important que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. J'aimerais expliquer pourquoi, historiquement, c'est une croyance raisonnable à avoir. Ce n'est pas la chose que l'on doit croire avec une foi aveugle. Il est en fait raisonnable de croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts en se basant sur les preuves. Et j'aimerais souligner quelques leçons que nous tirons de la méditation de tout cela. Et le titre du sermon d'aujourd'hui est simplement la question suivante. Est-il ressuscité? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préparer le terrain. J'aimerais dire quelques mots. J'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été assez intelligent pour penser à une grande partie des choses dont nous allons parler aujourd'hui. Il s'agit d'une grande discussion. Il y a beaucoup de détails à discuter et nous allons le réduire à l'essentiel lorsque nous l'aborderons. Et je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Beaucoup de chercheurs travaillent sur ce genre de choses, mais aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'a fait partie de l'Église. L'un d'eux est Dr. William Lane Craig. Je suis un vrai supporteur de son travail. Il y a aussi N.T. Wright, qui était un Anglican, un écrivain très célèbre. C'est vraiment triste quand vous faites partie d'une dénomination, dans ce cas l'anglicanisme, et que vous vous faites connaître en défendant l'historicité de Jésus et de la résurrection. On pourrait penser que c'est la norme pour votre foi, mais au lieu de cela, ces hommes peuvent se démarquer du reste de leurs collègues, prêtres ou prédicateurs, en défendant réellement la vérité de ces choses. C'est un peu l'époque dans laquelle nous vivons, et ils ont fait de bonnes recherches à cet égard. Deuxièmement, je voudrais souligner aussi au début que je vois en regardant ceci un reflet de ce que M. Armstrong nous a fréquemment recommandé de faire dans sa vie. Il disait souvent « Ne supposez pas simplement que Dieu existe, prouvez-le par vous-même. Et si vous pensez l'avoir prouvé, vous trouverez des situations qui viendront vous tester pour montrer que peut-être votre preuve n'était pas suffisante, que vous prenez trop pour acquis. » M. Armstrong nous mettait au défi de ne pas simplement considérer cela comme acquis, mais de prouver que ces choses soient ainsi. Comme le Dr. Meredith nous l'a dit souvent, afin de savoir que vous savez. Je vois le fait de se demander si cet homme qui a vécu il y a si longtemps est vraiment ressuscité des morts comme étant un reflet de l'encouragement fréquent de M. Armstrong et du Dr. Meredith à cet égard, en particulier pour ceux parmi nous qui sont plus jeunes. ceux qui sont de jeunes adultes ou des adolescents. D'autant plus que vous vivez dans un monde où ces choses sont remises en question. Et cela vaut la peine de prendre le temps de se demander pourquoi vous savez que ces choses sont vraies. Et si vous savez que ces choses sont vraies. Et ce dont je vais parler aujourd'hui est essentiellement une approche apologétique, une défense de certains faits historiques. Il existe d'autres moyens. Certains d'entre vous qui sont plus expérimentés dans l'Église, ayant été convertis depuis des décennies, maintenant, vous savez, dans votre expérience, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer l'aide et les conseils spirituels que vous avez reçus dans votre vie et la sagesse dont vous avez expérimenté à travers l'Église. Vous en avez fait la preuve. Mais pour ceux qui se trouvent dans des situations où ils n'ont pas encore pu faire cette expérience et qui savent qu'ils vont être mis au défi par un ami, par un enseignant, par des professeurs, par un collègue de travail, nous sommes toujours soumis aux obligations dont parle l'apôtre Pierre en termes de capacité à donner une réponse à ceux qui ont des questions sur l'expérience qui est en nous. Donc, d'autant plus pour ceux d'entre nous qui sont plus jeunes, je vous encourage à plonger dans ces choses, à explorer vraiment et à vous assurer que vous êtes bien ancré dans ces choses. Car la résurrection de Jésus-Christ est en fait un fait, comme tout un autre événement historique. Soit c'est une fiction. Cela pourrait aussi bien être une bande dessinée de Spider-Man si cela n'est pas réellement produit. Cela vaut donc la peine d'essayer de le déterminer dans un sens ou dans l'autre. Troisièmement, je ne veux pas y consacrer trop de temps, mais c'est une des choses que je voulais aborder dans le sermon. Ne vous contentez pas de me croire sur parole pour savoir combien c'est important. Regardons plutôt le témoignage de la Bible elle-même sur l'importance de cette vérité. Allez à 1 Corinthiens 15. Nous allons lire quelques passages. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 14. Paul dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. » Permettez-moi de m'arrêter ici et de dire que de nombreux enseignants chrétiens, influents, ne croient pas eux-mêmes à certains de ces éléments majeurs. Plusieurs ne pensent pas qu'il soit important que le Christ soit réellement ressuscité des morts et qu'il soit réellement né d'une vierge. Ils disent « Je ne pense pas que cette chose-là soit importante. » Ce qui est important, c'est le grand enseignement que nous recevons du christianisme. Il le transforme essentiellement en quelqu'un comme un Bouddha, quelqu'un qui a juste une grande philosophie pour sa vie. Mais l'apôtre Paul dit le contraire. Paul dit littéralement « Si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas sorti du tombeau, alors notre prédication est vide, vous ne devriez pas écouter ce que nous avons à dire. Nos paroles sont des paroles vides. Votre foi est vide. Elle est dépourvue de contenu, comme si la revue Le Monde de demain était votre foi et que vous l'ouvriez à la table des matières et qu'il n'y avait rien, parce que votre foi n'avait rien, n'est littéralement rien qui ait de la valeur ou de l'intérêt. » Et donc, Paul dit au verset 15 à 17, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Certains d'entre vous dans cette salle ont commis des péchés, j'en suis sûr. J'en connais au moins une dans cette salle qui en a commis des péchés. Je ne dirai pas son nom, mais il rime avec Schmalschmith. Je connais une personne dans cette salle qui a commis des péchés, et il est si reconnaissant pour le pardon qui lui a été accordé par le Christ, et qu'il n'en porte plus le poids. Il est capable d'avancer dans la vie sans que ces choses-là le tirent vers le bas. Et pourtant, si le Christ ne l'a pas ressuscité de la tombe, je porte encore le poids de chacun d'entre eux, et vous aussi. » Donc, encore une fois, en continuant au verset 18, il dit, « Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Maintenant, il ne veut pas simplement dire « mort », il veut dire « mort pour toujours ». Il veut dire qu'ils sont morts, qu'ils ne reviendront jamais. Il n'y a aucune promesse de la fin des trompettes, de voir nos proches dans l'Église s'élever dans le ciel pour rencontrer Jésus-Christ, s'il n'est pas sorti de la tombe. Si un homme littéralement mort pendant 3 jours n'est pas soudainement revenu à la vie après ces 3 jours, nous ne verrons jamais ceux dans l'Église que nous avons hâte de revoir. La promesse du dernier grand jour, nada. C'est une fantaisie. C'est une histoire que l'on raconte aux gens pour qu'ils se sentent mieux aux funérailles, si le Christ n'est pas ressuscité des morts. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Si vous avez pitié des gens, dit-il, ayez surtout pitié de nous, si c'est le cas. En fait, allons au verset 32. Et l'apôtre Paul dit ici, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Ou bien cet homme est sorti de la tombe, ou bien je n'ai aucune raison de m'occuper à d'autres choses que de manger, boire et faire la fête jusqu'à ma mort. Je pense que nous avons déjà parlé de ça, cela fait un moment, mais Albert Camus est un célèbre philosophe athée. Et il a conclu que, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, et il n'y a pas de valeur réelle ou de but à la vie, par conséquent, la seule question philosophiquement significative à laquelle nous devons répondre est de savoir si devons nous suicider ou non. C'est tout. C'est à cela que se résume la vie si rien de tout cela n'est réel. Si ces choses ne se sont pas réellement produites, nous sommes de tous les hommes les plus pitoyables. Contentons-nous de manger, de boire, car demain nous mourrons. Si le Christ est effectivement ressuscité des morts, tout ce qu'il a promis est vrai. Revenons au verset 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. S'il est sorti de la tombe, alors il reviendra, car il a dit qu'il le ferait. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire? Je vais revenir dans les nuages et apporter un royaume un jour? Ou, quand je mourrai, je reviendrai à la vie? Je pense que la seconde est plus difficile à dire et à faire valider. Un homme qui réussit cela, littéralement mourir, qu'il soit prouvé qu'il fut mort pendant 3 jours et 3 nuits, et ensuite, d'une manière ou d'une autre, alors qu'il est mort, il revient à la vie exactement comme il l'a dit qu'il allait le faire, je vais écouter quand cet homme va me dire qu'il va réussir autre chose, parce qu'il va probablement le faire. Ainsi, la fête des trompettes a un sens, lorsqu'il prophétise les événements finaux à venir qui mèneront à son retour, avec un point culminant la résurrection de ceux qui ont réellement fait confiance à son nom. Ensuite, le jour des expiations a un sens, lorsqu'il dit « Je vais faire en sorte que le diable soit mis à l'écart pendant 1000 ans, ainsi que la promesse de son royaume que nous illustrons par la célébration de la fête des tabernacles. » Le moment où nous allons célébrer avec notre deuxième dib et notre communion fraternelle a un sens. En fait, si vous êtes un étudiant de l'éducation vivante, nous avons eu une réunion et j'ai parlé des piliers de ma foi et de la façon dont vous pouvez trouver les vôtres. Et il y a une raison pour laquelle celle-ci est le deuxième pilier et ça a à voir avec toutes ces choses. Quatrièmement, avant de penser aux preuves, de planter le décor, je tiens à souligner et j'espère que cela n'offensera personne. Je veux être clair avant de risquer de vous offenser. Je crois que la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qu'elle dit est vrai. Si vous ne croyez pas cela, vous êtes dans la mauvaise église, car nous prenons littéralement chaque mot au sérieux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai une Bible sur mon iPad. Ce n'est pas la même chose de dire « Frère, croyez à vos Bibles » et de montrer mon iPad. Ce n'est pas la même chose comme si j'utilisais mon téléphone, frère. Croyez-vous à vos Bibles? Mais mes frères, si vous ne croyez pas vos Bibles, vous êtes dans la mauvaise église. Nous sommes une église qui croit en la Bible. Nous croyons chaque mot. Nous croyons lorsque Jésus-Christ a dit que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. C'est vrai. Cependant, en abordant les preuves du sermon, ne l'ont pas traité la Bible comme la parole inspirée de Dieu. Parce que si c'est le cas, alors c'est facile. La Bible dit que Jésus est ressuscité des morts. C'est la parole de Dieu. C'est terminé. Vous laissez tomber le micro et vous passez à autre chose. Mais de plus en plus, nous avons une génération qui ne croit pas à la Bible. En fait, la résurrection de Jésus-Christ, où il est question d'un homme qui revient d'entre les morts, est l'une des raisons pour lesquelles ils ne croient pas à la Bible, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un revenir d'entre les morts. Tout ce qu'ils connaissent, ce sont des mythes qui parlent de ce genre de choses, et non un homme réel ressuscitant des morts. Et vraiment, si vous y pensez, même Paul, parmi les Juifs, avait au moins le bénéfice des prophéties qu'il pouvait expliquer. Vous avez toujours mal compris ceci. Elle parle d'un Messie qui va souffrir, bien que vous ne l'avez pas compris. Il parle d'un Messie exécuté, mais vous ne l'avez pas compris. Mais quand Paul est allé à Athènes, il n'avait pas accès à cela. Il ne pouvait pas se référer aux prophéties juives. Son histoire aurait dit, « Oh, je n'avais pas réalisé que les prophéties juives prévoyaient que l'un d'entre vous serait le maître du monde entier, y compris les Grecs et les Romains. Passez votre chemin, espèce de cinglé. » Il n'aurait pas accepté ça. En fait, il a dû prouver la résurrection du Christ par des faits en dehors de ces choses. Les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils s'adressaient aux Juifs et à des gentils, ils ne pouvaient pas se référer au Nouveau Testament comme autorité. Ils n'avaient pas Pierre qui pouvait dire « Regardez, lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, croyez-moi, ces choses sont arrivées. » La seule chose qu'ils avaient, c'était leur témoignage. Ce qu'ils avaient vu ces choses et qu'ils devaient convaincre les gens. Même si vous dites « Si vous allez regarder l'Ancien Testament, un Messie devait mourir et tout le reste, ils diront « C'est bien, mais pourquoi est-ce que c'est votre gars qui est vrai? » Donc, nous allons traiter la Bible, et c'est un argument encore plus fort si nous faisons cela, comme un texte historique, comme un texte qui a été écrit à l'époque que de nombreux érudits pensent qu'il l'a été, même si beaucoup d'entre eux datent en fait de nombreuses parties de la Bible beaucoup trop tard. Nous allons juste traiter le texte biblique comme un texte du premier siècle. En fait, si vous ne croyez pas que la Bible est inspirée, je vous recommande vivement la brochure du Dr. Winnail intitulée « La Bible, réalité ou fiction ». Si vous ne l'avez pas lu depuis longtemps, cela vaut la peine de la lire et de s'assurer que vous croyez à ce livre. Il a besoin d'être mis à jour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont changé depuis le fil des ans, mais les principes qui y sont énoncés sont toujours très vrais. Enfin, avant de nous pencher sur la situation historique, je voudrais aborder un argument contre ces choses qui revient parfois, qui a gagné de la popularité au cours des dernières décennies. Et c'est vraiment l'une des choses les plus stupides. Cela dit, lorsque vous entendez des choses stupides pour la première fois, elles vous paraissent parfois pas si stupides que ça. Surtout lorsqu'elles sont dites par des personnes qui semblent très intelligentes. Et nous vivons dans un monde où les gens sont prêts à conclure que la Terre est plate. Et toute chose d'autre chose, sur la base de vidéos YouTube qu'ils ont vues. Il est intéressant de voir comment les gens essaient d'écarter tous les scientifiques qui disent que la Terre est ronde, tous ceux de NASA et tous les autres vidéos YouTube et les scientifiques qui parlent d'une Terre ronde parce que les vidéos YouTube qu'ils ont trouvées disent que la Terre est plate. Je ne fais pas confiance aux gens, mais je fais mes propres recherches, disent-ils. Eh bien, vous faites vos recherches dans un groupe de personnes qui sont vraiment arrivées à une conclusion erronée. En fait, vous faites confiance aux gens. Vous faites confiance à ce que les gens disent. Il existe donc des arguments, par exemple. Celui que je vais aborder ici affirme que Jésus n'a jamais existé. C'est ce que je vais aborder très rapidement, juste pour m'en débarrasser, parce que certains d'entre vous vont rencontrer cela. C'est très à la mode dans certains cercles. Même les athées veulent paraître ou faire bonne figure auprès de leurs amis. Et parfois, ils font belle figure en adoptant la position la plus radicale. Donc, ces gens disent « Quoi? Tu crois en Jésus? Jésus n'a même pas existé. J'ai lu qu'un homme a écrit et il a expliqué que Jésus est un mythe complet. » Et c'est juste vraiment ce que je veux dire. Le mot technique pour des arguments comme ça, c'est qu'ils sont juste stupides. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de Bart Hurtman. C'est un spécialiste du Nouveau Testament très athée. Il a écrit des livres pour discréditer le christianisme, pour dire que Jésus n'a pas dit toutes ces choses qu'il a dit. Il a écrit un livre intitulé « Did Jesus Exist? Jésus a-t-il existé? » Parce qu'il dit que toutes les choses que ces gens disent, il l'a pas vraiment dit. Et c'est vraiment stupide. Il croit vraiment que Jésus a existé, par contre. Il dit que les vrais érudits crédibles comprennent que Jésus est un homme réel et que les divers faits de sa vie dont la Bible parle sont vrais. Par exemple, Bart Ehrman a écrit ceci. Malgré l'énorme éventail d'opinions, il y a plusieurs points sur lesquels pratiquement tous les érudits de l'Antiquité sont d'accord. Jésus est un homme juif, connu pour être un prédicateur et un enseignant, qui a été crucifié, une forme d'exécution romaine, à Jérusalem sous le règne de l'empereur romain Tibère, alors que Ponce Pilate était le gouverneur de Judée. Il dit que peu importe ce que les gens pensent, ils peuvent détester le christianisme avec passion, ils peuvent penser que tout cela n'est qu'une blague et un énorme mensonge, et ils sont d'accord avec ces faits. Ce sont des faits historiques. Il a écrit plus tard, « Jésus a existé, et les voix qui s'élèvent, qui le nient, ne le font que parce qu'ils n'ont pas examiné les preuves avec l'œil impartial de l'historien, mais parce qu'ils ont un autre agenda que ce déni sert. » Et il est athée. Il ne croit certainement pas que Jésus ressuscité des morts, mais il reconnaît le fait que Jésus a existé. Il n'est pas nécessaire de remonter loin dans le temps. Je vais juste donner deux exemples. Si vous remontez au temps de Tacite, il a écrit autour de 109 après Jésus-Christ. Maintenant, c'est une partie de la raison pour laquelle Tacite se distingue et que dans l'Antiquité, il n'avait pas beaucoup de grands historiens. Beaucoup d'entre eux essayaient de vous vendre quelque chose. Tacite se distingue parce qu'il n'aimait pas les oui-dire, il voulait des sources. Il était en fait beaucoup plus proche d'un historien moderne. En l'an 109, il aurait été du vivant de certaines personnes qui auraient vécu au moment, par exemple, de la crucifixion. On reprochait à l'empereur Néron l'incendie de Rome, et Néron essayait de rejeter la faute sur des boucs émissaires. Il a donc choisi les chrétiens. Tacite, il est vrai, n'était pas un supporteur de Néron. Mais Tacite a écrit, « Par conséquent, pour se débarrasser de ce rapport, c'est-à-dire de la faute de Néron, Néron fixa la culpabilité et infligea les tortures les plus exquises à une classe détestée pour ses abominations, appelée chrétien par la populace. Le Christ, qui est à l'origine de ce nom, subit la peine extrême sous le règne de Tibère par la main d'un de nos procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malveillantes. Ainsi contenu, pour le moment, éclata de nouveau, non seulement en Judée, première source du mal, mais même à Rome, où toutes les choses hideuses et honteuses de toutes les parties du monde trouvent leur centre et deviennent populaires. » Meilleure description de Rome, vous ne trouvez pas? Tacite admet ici que Rome est le summum. Alors, c'est étonnant de voir comment cela correspond avec le livre des Actes, parce que Jésus-Christ a été crucifié, est mort, et tous les disciples et les autres sont soudainement devenus très silencieux. Même les apôtres se cachaient. Puis soudainement, la vérité a éclaté, Actes 1, 8 dit, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Et cela correspond tout à fait au livre des Actes des apôtres. Bien sûr, pourquoi a-t-elle éclaté? Parce qu'il fut ressuscité. Et Fabius Joseph maintenant. Fabius Joseph est un peu difficile. J'ai vu différentes dates pour ses écrits. Certaines personnes datent les écrits des Antiquités des Juifs par Joseph à 93-94, après Jésus-Christ, un autre un peu plus tard à 110, mais toujours juste à l'intérieur d'une durée de vie des événements que nous lisons au terme de la crucifixion. Joseph est un historien juif très populaire et très célèbre. Une partie du problème de Joseph est que les gens pensent que certains chrétiens, en traduisant ou en déplaçant les écrits de Joseph à travers le temps, ont inséré certaines choses parce qu'ils voulaient qu'ils sonnent plus comme si Joseph pensait que Jésus était le Messie. Cependant, il est intéressant de noter qu'il existe d'autres traductions de Joseph qui ne sont pas passées par les mêmes traducteurs, des versions syriaques par exemple, ou essentiellement arabes. Et quand on lit ces versions, on retrouve le même témoignage, mais qui est un peu atténué. Par exemple, je vais lire une traduction de quelqu'un qui s'appelle Agapius. Mais ensuite, je commenterai une variation de cette traduction par quelqu'un d'autre connu sous le nom de Michel Syrien. Donc, si vous lisez cette traduction de Joseph, il dit « À ce temps-là, il y avait un homme sage qui s'appelait Jésus, et sa conduite était bonne, et il était connu pour être un être vertueux. Et beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et mourir. Et ceux qui étaient devenus ses disciples ne l'abandonnèrent pas. Ils rapportèrent qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. En conséquence, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des prodiges. Maintenant, si vous allez à la traduction par Michel le Syrien, il semble un peu plus réaliste dans sa traduction. Michel le Syrien écrit que il était considéré comme le Messie. Beaucoup de gens croient généralement que Joseph lui-même n'est pas devenu chrétien, mais qu'il a certainement été témoin de ces choses. En outre, ailleurs dans les écrits de Joseph, il fait la référence à Jacques, le frère de Christ, et parle de son exécution. Et quand il parle de Jacques, il se réfère à lui comme le frère de Jésus qui a été appelé Christ. Ainsi, la conclusion la plus raisonnable est que Jésus est une personne réelle. Nous sommes aussi proches que possible de personnes qui ont écrit et mentionné les événements de sa vie, et sans même regarder le Nouveau Testament. Mais même si vous regardez le Nouveau Testament lui-même, par exemple, la plupart des historiens croient que 1 Corinthiens a vraiment été écrit par Paul, et qu'il l'a écrit très tôt, au début des années 50 après Jésus-Christ, environ quelques décennies après la crucifixion. Et l'apôtre Paul lui-même fait référence à Jacques, le frère de Jésus. Ainsi, le témoignage de l'existence réelle de Jésus, les faits fondamentaux de sa vie, de sa crucifixion et de sa mort, et l'étouffement de la religion avant sa résurgence, sont des faits historiques. Donc, il est mort. Mais que s'est-il passé ensuite? Je veux me concentrer sur 2 faits principaux. Le premier est le fait que le tombeau de Jésus a été trouvé vide. Cela doit être considéré comme un fait historique. La Bible nous apprend que c'était la tombe de Joseph d'Arimathée. En fait, l'histoire soutient que, même si vous le regardez d'un point de vue séculier, ce serait aussi la conclusion raisonnable que c'était la tombe de Joseph d'Arimathée. La Bible est vraie. C'est un fait historique que le tombeau de Jésus-Christ a été trouvé vide. En tant qu'historien examinant les preuves, il serait difficile de conclure autre chose. Comment il est devenu vide n'est pas expliqué par l'histoire. Nous y reviendrons plus tard. Au fait, si vous ne croyez pas que la Bible soit un texte religieux, sacré, divin, si vous pensez seulement historiquement, comment concluriez-vous que c'est le tombeau de Joseph d'Arimathée? Eh bien, parce que, si vous le regardez, la Bible a été écrite à une époque où les gens attaquaient la foi, et une grande partie de ce qui a été écrit dans ces textes était pour défendre la foi contre divers attaquants. Et qui étaient certains des ennemis des chrétiens du premier siècle? C'était le Sanhédrin, les Juifs. Et ce que vous ne faites pas lorsque vous essayez de vous défendre, c'est de nommer l'un des membres du Sanhédrin et de dire, vous savez quoi? C'est la tombe de Joseph d'Arimathée. Il faisait partie du Sanhédrin. Parce que tout ce que les autres auraient besoin de faire et de dire serait, qu'est-ce que tu racontes? Voici Joseph, et il dit que ce n'était pas sa tombe. Ou il dirait, voyons, tu inventes ce nom-là. Dans ce genre de situation, on ne se met pas dans une situation menant à l'échec. Mais quelle que soit la tombe dans laquelle les historiens pensent que Jésus a été placé, nous savons qu'elle était vide. Comment le savons-nous? Laissez-moi vous donner quelques lignes de raisonnement et de preuves. Premièrement, nous avons les témoignages des ennemis des disciples de l'Église qui disaient que le tombeau était vide. Maintenant, parfois vous devez argumenter à partir du silence. Certaines personnes disent que l'on ne peut pas trouver une négation. Au contraire, on peut prouver une négation. Vous pouvez argumenter à partir du silence. Si quelqu'un ne dit rien, cela signifie quelque chose si vous entendez à ce qu'il dise quelque chose. Lorsque vous regardez votre fils directement dans les yeux et que vous lui demandez « As-tu volé le biscuit de ton frère? » et qu'il vous regarde et qu'il ne dit rien, on peut déduire de ce silence que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas difficile. Nous le faisons tout le temps. Et au premier siècle, les Juifs voulaient désespérément réfuter les affirmations de l'Église. Ils voulaient prouver que cette Église, Cette secte en pleine expansion était basée sur une fraude, sur un mensonge. Nous avons des preuves de ce que les Juifs de l'époque disaient. Et ce qu'ils ne disaient pas était « Regardez, nous pouvons vous montrer le corps. Allons au tombeau. Comment pouvez-vous dire qu'il est ressuscité alors que sa tombe est juste ici? » Qu'a dit Pierre dans ce premier sermon inspiré dans le livre des Actes, alors qu'il a dit que le sépulcre de David existe encore aujourd'hui parmi nous, dans Actes 2, 29? Aucun des ennemis juifs de l'Église n'a indiqué l'emplacement du corps du Christ. S'il l'avait fait, la partie aurait été terminée. Il n'y aurait plus rien à dire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer de raisonner à savoir pourquoi le corps avait disparu. Pourquoi on ne pouvait pas trouver ce corps? Pourquoi le tombeau était vide? En fait, nous voyons un exemple de cela. Encore une fois, en regardant la Bible comme étant historique, allez à Matthieu 28. Nous allons y voir l'argumentation des Juifs de l'époque. Matthieu 28. Les autorités juives comprenaient la revendication. Elles savaient que le Christ avait dit qu'il serait ressuscité. Donc, ils ont payé pour mettre des gardes autour du tombeau. Maintenant, comprenez que si vous êtes Matthieu et que vous écrivez l'histoire de ces choses pour les croyants, pour les fidèles, c'est une histoire avec un but. Vous essayez de défendre la foi, vous essayez de les fortifier pour que la foi que leur famille et leurs amis s'en prennent à eux, ils soient équipés pour y faire face. Ainsi, vous répondez aux affirmations négatives qui circulent. Et c'est ce que Matthieu fait ici, inspiré par Dieu. Matthieu 28, versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés, avec les anciens avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est ce que les Juifs disaient. Ils n'auraient pas eu à dire cela s'il y avait un corps, s'il n'y avait pas eu un tombeau vide. Donc nous avons cette preuve que les Juifs ne pouvaient pas montrer un corps. Ils ne pouvaient pas dire « Autorisons simplement l'ouverture du tombeau ». Ils ont fini par ouvrir les tombes, car ils devaient transférer les os dans un ossuaire. Cela faisait partie de leur coutume funéraire. Il n'aurait pas été inhabituel pour eux de le faire, et pourtant, ils ne pouvaient pas le faire. Voilà donc l'argument que les Juifs de l'époque et que Matthieu tente d'expliquer. Vous pourriez penser « Comment peut-il savoir cela ?» Mais une partie du témoignage du Nouveau Testament est que, finalement, même certains des prêtres se sont convertis à la foi. Ainsi, ils auraient facilement pu connaître ces choses. Vous pensez qu'il est difficile de garder un secret aujourd'hui? Il était difficile de garder un secret à cette époque-là aussi. Maintenant, un autre élément de preuve que le tombeau était vide pourrait choquer peut-être environ 50% de revues, mais nous parlons ici du 1er siècle. Et un autre élément de preuve et que les documents historiques que l'Église a créés pour documenter la résurrection, ils l'ont souligné dans les premiers témoins qui étaient des femmes. À l'époque, si vous essayez de monter un dossier crédible, vous ne dites pas que les femmes étaient les premiers témoins. Ne vous énervez pas contre moi, mais l'historien Flavius Joseph fit ses commentaires à ce sujet. Il dit, dans ses écrits, il dit, « Mais que le témoignage des femmes ne soit pas admis à cause de la légèreté et de la hardiesse de leur sexe. » Je peux vous donner la citation si vous voulez. J'entends certains d'entre vous rire, vous voyez, la légèreté. Regardez ça, je ne veux pas vous prendre au sérieux. Mais il vous a appelé audacieuse par contre. Donc, vous voyez, vous avez ça pour vous. Donc, si vous essayez de bâtir une fausse histoire, mon fils Benjamin et moi avons parlé de ça. Il est en train d'obtenir son diplôme en histoire. Il y a des cours d'historiographie, où l'on parle des principes d'examen des textes primaires, où l'on essaie de comprendre s'ils sont crédibles. L'un des indices de la crédibilité d'un récit historique qui tente vraiment de raconter l'histoire est que les historiens notent des choses embarrassantes pour leur cause. Parce que quand on invente une histoire, on ne fait pas ça. Quand vous lisez certains des rapports historiques des rois païens qui se sont opposés aux Israélites, ils enregistrent leur victoire. Mais quand Dieu intervient, comme vous le lisez dans la Bible, soudain leurs écrits ou les récits historiques séculiers deviennent un peu bizarres. Ils disent « Notre roi a été vaincu ». Ils ne disent pas « Notre puissant roi a été vaincu et tous nos soldats ont commencé à s'entretuer au hasard sans que nous puissions l'expliquer ». Ils disent simplement « Vous savez, nous sommes simplement passés à autre chose ». Pourtant, dans le récit biblique, le témoignage des femmes est une marque de crédibilité historique. Ils disent en fait « Écoutez, nous savons que vous n'allez pas nous prendre au sérieux, mais les premiers à trouver le tombeau vide furent des femmes. Ils sont francs, ils sont honnêtes. Et bien sûr, nous savons que les femmes sont tout aussi crédibles que n'importe qui d'autre. Disons que vous êtes dehors et que vous voyez M. Lyons voler comme Superman. Et alors vous entrez et vous essayez de nous convaincre tous et vous dites « Écoutez, je ne plaisante pas, on l'a vu tous les deux, moi et Larry le menteur. » Ce n'est pas le témoin que vous auriez. Même s'il est d'accord avec vous, il dit « Ouais, je l'ai vraiment vu. Cela n'aide pas votre cas, n'est-ce pas? » Vous ne feriez pas ça. Et pourtant, c'est en quelque sorte une marque de crédibilité historique qu'il soit franc, disant que les toutes premières personnes à trouver le tombeau vide étaient des témoins même que la plupart d'entre vous pensent être les moins crédibles. Il s'est révélé aux femmes en premier. C'est donc une preuve que le tombeau a bel et bien été trouvé vide. Un autre exemple. Il y a tant de récits des évangiles qui se lisent comme l'histoire. Ils ne se lisent pas comme des contes et des mythologies inventées, les mythologies chrétiennes. Ils se lisent comme l'histoire. Il y a un livre que je recommanderais si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de détails. Il est écrit par Peter J. Williams. Je l'ai vraiment apprécié. Il s'intitule « Can we trust the gospel? Pouvons-nous croire les évangiles? » Ce n'est pas vraiment un très gros livre, mais il est très bon. Il présente en fait un cas. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit est vrai. Il dit simplement « Regardez, c'est l'histoire. » Et il passe en revue de nombreuses preuves que beaucoup de gens ne considéreraient même pas. Laissez-moi vous donner un exemple. Si je devais maintenant inventer une histoire sur ce qui s'est passé à Jérusalem au 1er siècle. Je suis séparé de cette période non seulement par 2000 ans, mais aussi par beaucoup de géographie, n'est-ce pas? Et si je dois mettre beaucoup de gens dans cette histoire, je vais devoir trouver des noms. Peut-être que je trouverai un Joseph ou une Marie. Je trouverai certains de ces noms que je mettrai tous là-dedans. Cela pourrait sembler crédible, mais je vais probablement trouver peut-être un Arthur ou un Bob ou quelque chose comme ça, qui n'étaient pas des noms du 1er siècle. À quel point serait-il difficile pour moi de simuler de telle sorte ces noms correspondants aux noms du Nouveau Testament? Ils ont examiné les noms du Nouveau Testament, tous les différents noms, Joseph et tous les autres, et les ont étudiés statistiquement pour voir à quelle fréquence ils sont mentionnés. Ils ont également penché sur des documents non bibliques du judaïsme du 1er siècle, et ils ont examiné la fréquence des noms, des différents noms, comme s'ils y avaient un livre de juifs intitulé « Les 101 noms pour votre bébé » à donner aux gens. Et ils ont trouvé que, statistiquement parlant, ils s'alignent. Soit vous êtes le plus grand faussaire de l'histoire parce que vous avez révélé un détail subtil que les statisticiens n'auraient même pas pensé à regarder pendant des millénaires, soit vous racontez réellement des événements historiques qui ont eu lieu au 1er siècle. Ils ont même pris des contrefaçons chrétiennes qui ont été écrites, disons, à Alexandrie ou dans d'autres endroits, et les noms ne correspondent pas comme les noms dans les quatre évangiles. Ils ne correspondent pas. Et ce n'est qu'un des nombreux détails que Peter Williams met dans son livre. Ces livres bibliques se lisent comme de l'histoire, y compris le récit du tombeau vide. Par contraste, Laissez-moi vous lire une source chrétienne qui essaierait d'être pro-chrétienne, d'aider les chrétiens de l'époque, mais qui n'est absolument pas basée sur l'histoire. Il s'agit de l'Évangile de Pierre. Il existe de nombreux faux évangiles rédigés par des personnes qui essayaient d'aider la foi en se disant « Oh, écrivons quelque chose et intitulons-le « Évangile de Pierre ». Nous ne nous étendrons pas sur la moralité de cette pratique, mais quoi qu'il en soit, laissez-moi vous lire ce récit. La plupart d'entre vous ont, je l'espère, lu les récits des évangiles sur la résurrection et vous pourrez comparer la lecture avec celle-ci. OK, ceci provient de l'Évangile de Pierre. Avertissement, ce n'est pas très beau. Mais de bonne heure, à l'aube du sabbat, ce qui est déjà une erreur, le faux christianisme a commencé à considérer le premier jour de la semaine comme le sabbat, une foule vint de Jérusalem et des environs afin de voir le tombeau scellé. Maintenant, il y a une foule et tous les habitants de Jérusalem viennent et attendent de voir ce qui va se passer, parce qu'ils racontent cette histoire dans d'autres endroits où les gens ne sont pas au courant de certains détails. Mais dans la nuit où le jour du Seigneur se levait, là encore qui recommence, comme les soldats le gardaient deux par deux à chaque veille, il y eut une voix forte dans le ciel, et ils virent que les cieux s'ouvraient, que deux hommes qui avaient beaucoup d'éclat descendaient du ciel et s'approchaient du sépulcre. Mais la pierre qui avait été poussée contre la porte, ayant roulé d'elle-même, s'éloigna sur le côté. Le sépulcre s'ouvrit, et les deux jeunes hommes entrèrent. Imaginez toute la population de Jérusalem entourant le tombeau et tout ce qui se passe là en même temps. Et ces soldats, ayant vu, réveillèrent le centurion et les anciens, car eux aussi étaient présents là et ils veillaient. Ils essayaient maintenant de faire entrer tous les anciens des Juifs. Ils essayaient de condamner autant de personnes que possible. Et pendant qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vu, ils voient de nouveau trois hommes qui sortent du tombeau, les deux soutenant l'autre, et une croix les suivait. Donc, vous avez trois gars qui arrivent, et derrière eux, il y a une croix qui saute, comme dans une des vidéos de Végétalouf ou de quelques bandes dessinées. Cela ne s'améliore pas. Et la tête des deux atteint le ciel. Ces hommes étaient vraiment très grands. Mais la tête de celui qui est conduit par les deux autres, elle va au-delà des cieux. Donc, c'est comme le Messésila, c'est vraiment très grand. Il sort de la tombe, et c'est encore pire. Ils entendirent une voix venant des cieux qui disait, « As-tu fait une annonce à ceux qui dorment? » Et la croix de répondre, « Oui! » Ils ne donnent même pas à leur faux Messie la chance de répondre. La croix derrière eux a une bouche tout à coup et elle dit « Oui, je l'ai fait ». Vous voyez, c'est comme ça qu'on raconte une histoire qui n'est pas hystérique, quand on essaie juste de raconter une histoire qui fait adhérer les gens à sa religion mythologique. Donc, soyons francs. Quand je lis les évangiles, partout je suis frustré qu'ils omettent des détails. Parfois, je suis frustré par le fait que le récit de l'un est un peu plus difficile à faire coïncider avec le récit d'un autre. Et pourtant, toutes ces choses sont en fait la preuve qu'ils n'essayaient pas simplement de monter une histoire. Ils n'essayaient pas de tisser quelque chose ensemble pour tromper un groupe de personnes. Ils rendaient compte des faits. Ils écrivaient les faits tels qu'ils les connaissaient. Ils ne se souciaient pas toujours de savoir si c'était facile à concilier avec quelque chose d'autre. Il y a toujours une conciliation entre les évangiles. Mais toutes les choses vont ensemble. Mais ce que vous pouvez lire, c'est qu'ils ne se sont pas concertés. Donc, laissez-moi conclure cette partie, parce que nous n'avons fait que quelques faits que nous voulons examiner. Nous examinons le tombeau vide. Le fait que le tombeau de Jésus-Christ a été trouvé vide n'est, pour la plupart en général, pas contesté. Ni par les personnes qui étudient la Bible à fin religieuse, ni, franchement, même par les érudits athées. Ils concèdent qu'il semble assez clair que la tombe de ce maître Jésus a été trouvée vide. Et permettez-moi de considérer un autre fait historique. Considérez les apparitions de Jésus-Christ ressuscité. nous pouvons nous tourner vers un livre sur lequel les historiens non religieux ont tiré de nombreuses conclusions. Il s'agit de 1 Corinthiens. Il est important de reconnaître que même les érudits séculiers croient que Paul est l'auteur de la lettre aux Corinthiens. Ils estiment généralement qu'il a été écrit vers 53-54 après Jésus-Christ, et parfois ils se trompent en se basant sur d'autres choses, mais si vous prenez cela, le début des années 50 après Jésus-Christ, c'est important. La crucifixion et la résurrection ont lieu en 31 après Jésus-Christ. Et s'ils ont raison, et que ce texte n'a été écrit qu'environ 20 ans plus tard, la distance entre Paul écrivant ce texte, la crucifixion et la résurrection, n'était que celle qui nous sépare du 11 septembre. C'est récent. Certains d'entre vous sont assez jeunes, et vous n'étiez pas encore nés au moment du 11 septembre. Mais la plupart d'entre nous dans cette salle se souviennent du 11 septembre. Certains d'entre vous étaient peut-être même à New York à cette époque. Et même si vous êtes nés après, vous savez, grâce aux personnes qui vous entourent, que c'est une expérience récente. Et Paul écrivit un Corinthien à une date aussi proche de la résurrection. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on considère qu'il s'agit d'une histoire réelle. Une autre raison est qu'il correspond au même principe d'embarras que nous avons parlé précédemment. Il croit que c'est de l'histoire parce que Paul parle de l'Église en termes très troublants. Lorsque vous inventez des choses pour essayer d'impressionner les gens avec votre fausse religion, vous ne dites pas des choses comme Paul l'a dit lorsqu'il dit « Il y a tellement de péchés sexuels parmi vous. Ressaisissez-vous. » Quand on invente des choses, on invente ces informations parce qu'on essaie simplement d'écrire quelque chose qui est essentiellement de la mythologie. Ainsi, les érudits sont vraiment convaincus. Même les érudits séculiers croient que Paul a littéralement écrit 1 Corinthiens. Donc, si on se reporte à 1 Corinthiens 15, nous allons lire ce qui est écrit à 1 Corinthiens 15 ici au verset 3. On sait que c'est l'histoire qui a été écrite ici, et que Paul a vraiment écrit cette lettre. Mais 1 Corinthiens 15, verset 3, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc, avant de poursuivre, laissez-moi souligner ce qu'il dit. Nous sommes une vingtaine d'années après la crucifixion et la résurrection, et ce n'est pas la première fois qu'il dit ces choses. Il dit « Ce que je vous ai dit auparavant, ce que j'ai reçu avant cela, même d'un point de vue purement séculier et académique, où vous ne croyez peut-être pas que le christianisme est vrai, vous ne pouvez pas dire que cette chose s'est développée au cours des siècles pour devenir une sorte de mythe. En une petite poignée d'années, il parlait manifestement de choses qui étaient vraiment produites. Donc les versets 3 à 8 encore disent « Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais reçu, que le Christ est mort pour nos péchés selon nos Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. » Nous comprenons que cela veut dire qu'il fut 3 jours et 3 nuits complets, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, ici c'est Pierre, utilisant son nom araméen. Puis aux 12, aussi ils sont au complet ici, incluant Matthias qui fut ajouté. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, ici c'est le frère de Christ, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. C'est donc le récit de 1 Corinthiens 15. Maintenant, considérons ce qu'il veut dire. Considérons ce qu'il fait avec son intervention. Parce que la question que nous avons devant nous est de savoir si c'est un fait historique, que les disciples ont vraiment cru avoir vu Jésus-Christ ressuscité, quelle que soit l'explication de cela. Les faits sont que oui, ces gens ont cru cela. Regardez ce qu'il dit et regardez les noms qu'il donne. Paul se mentionne lui-même. Mais en fait, il mentionne également Jacques. Nous l'avons vu au verset 7. Maintenant, c'est assez important. Vous pouvez garder votre place ici dans 1 Corinthiens 15, mais reportez-vous à Jean chapitre 7. C'est en fait un des points en faveur du livre de Jean comme étant considéré historique, et non pas seulement une propagande religieuse. Car même l'histoire séculière écrite par Fabius Joseph rapporte que Jacques était une figure clé du christianisme. La Bible explique que Jacques dirigeait le siège central de l'Église. La version de l'Église de Charlotte, à l'époque, était Jérusalem, et Jacques dirigeait cette Église. Donc, il était un personnage clé du christianisme. Et si vous faites de la propagande pour votre foi, vous ne donnez pas une mauvaise image de vos dirigeants. Vous n'enregistrerez pas les faiblesses. Pourtant, Dieu le fait toujours. Et nous lisons donc l'une des faiblesses de Jacques dans Jean 7, versets 3 à 5. Il mentionne que la fête était proche, et ses frères lui dirent donc dans Jean 7, versets 3 à 5. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères ne le croyaient pas, ne croyaient pas en lui. Et l'on pourrait penser, ce sont eux qui devraient croire le plus. Ils sont les témoins directs, mais ils étaient aussi leurs frères, non? Est-ce que mon frère est vraiment le Messie? Je ne le pense pas. Jacques ne croyait pas que son frère était le Messie. Pourtant, il est nommé ici parmi les témoins du Christ ressuscité. Mais revenons à 1 Corinthiens 15. Je pense que cela met vraiment en évidence ce que Paul et combien d'autres disent. Comprenez que ces personnes qu'il nomme sont encore en vie. Il dit, vous pouvez aller parler à Jacques, son frère. Vous pouvez aller parler à Pierre. Vous pouvez aller parler au reste des 12 qui étaient ses véritables disciples. Puis ensuite, au verset 6, il dit « Ensuite, il était apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Encore une fois, pensez-y. Connaissons-nous des personnes qui sont mortes depuis le 11 septembre, au cours des 20 dernières années? Moi, j'en connais. Mais la plupart des gens que je connaissais il y a 20 ans sont encore en vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont ces personnes. Et vous savez, nous essayons de faire des choses avec un précédent biblique. Et qu'est-ce que nous aimons faire au monde de demain? Nous disons souvent, « Ne vous contentez pas de me croire, croyez votre Bible. » Vous savez, allez demander à un témoin si ces choses que je vous dis sont vraies. Et c'est ce que fait Paul. Il était l'un des premiers présentateurs du monde de demain. Pas le premier, mais l'un d'entre eux. Il dit, « Ne me croyez pas. » Il y a littéralement 500 personnes que je peux vous indiquer et que vous pouvez interroger. Ce sont des questions de vie ou de mort. Et il dit, oui, je vous demande de croire que cet homme est sorti de la tombe. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Vous pouvez littéralement me donner l'équivalent d'une petite ville de 500 personnes à qui vous pouvez aller parler. Je peux vous dire leur nom. Oui, certains d'entre eux sont morts, mais la plupart d'entre eux sont encore en vie. Vous pouvez aller leur parler. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité, le Messie ressuscité. Encore une fois, ce n'est pas ce que l'on fait, à moins de savoir que c'est vrai, à moins de savoir que les choses se sont vraiment passées, que les gens croient vraiment avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Nous savons que c'est vrai parce que la Bible le rapporte, mais permettez-moi de revenir à la tentative de fabriquer une histoire. C'est une histoire bizarre. Une que j'utilise toujours. La plupart d'entre vous, pour autant que je cherche, n'étaient pas à mon mariage il y a presque 30 ans. Imaginons que je veux vous raconter que c'était le mariage le plus fantastique que vous n'avez jamais vu, que Dieu a ordonné notre mariage de manière telle qu'il est bien meilleur que tous les vôtres. Disons que ce que je dis, c'est incroyable. Au moment où il a dit « Je vous présente maintenant Monsieur et Madame Wallace Smith », le ministre a soudainement commencé à monter dans les airs et a commencé à briller. Et alors qu'il tournait sur place, des pétales de roses ont commencé à jaillir de ses manches de son manteau, arrosant la foule. C'était un miracle. Clairement, Dieu a ordonné notre mariage comme quelque chose pour l'éternité. Et vous allez demander, c'est incroyable. C'est aussi assez fou. Est-ce que je peux vérifier ça? Y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler? Et je pourrais répondre, eh bien, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment quelqu'un à qui vous pouvez demander. Je pense que tout le monde était sorti. Il y avait une très bonne trempette au fromage à l'extérieur et beaucoup d'entre eux ont choisi d'aller chercher cette trempette à ce moment-là. Je peux vous dire aussi que ce que je ne vous ferai pas, je ne vous donnerai pas la liste de toutes les personnes qui étaient présentes parce que j'ai inventé cette histoire. Mais Paul ici dit, sans blague, si vous allez à Jérusalem, vous trouverez près de 500 personnes qui vous diront exactement ce que je vous dis. Ils ont vu cet homme vivant et de nouveau. En fait, le témoignage est si fort que même les érudits athées croient généralement que les disciples ont vu Christ ressuscité. Puis ils ont eu cette sorte d'expérience. Ils ne croient pas que c'était Jésus-Christ ressuscité, parce que cela leur ferait perdre la face. Ils ne le croient pas, mais ils croient que Pierre et ces autres personnes croyaient avoir vu Jésus-Christ ressuscité. L'histoire qui soutient cela est tout simplement trop forte. En fait, il y a un critique sceptique particulier au nom de Gerd Ludemann qui admet cela. Et il y a un de ceux qui a une théorie alternative pour expliquer comment cela pourrait ne pas être une résurrection. Il dit, on peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus dans lequel Jésus leur est apparu comme le Christ ressuscité. Donc, ne doutez pas qu'ils croyaient avoir vu le Christ. Ce sont des faits historiques. Il y a deux faits historiques. Il y a un tombeau vide, sans corps à trouver, avec des chefs religieux puissants et désespérés qui auraient aimé procurer un corps et le montrer. Il y avait un tout autre groupe de personnes qui croyaient l'avoir vu vivant à nouveau. Voici l'élément clé. Comment expliquer ces faits? Voici le nœud du problème, là où tout se rejoint. Il existe de nombreuses idées sur la façon de les expliquer, car les sceptiques ne veulent pas croire que Jésus est ressuscité des morts. Ils proposent donc d'autres théories. Et certaines d'entre elles sont de véritables bombes. J'en ai lu plusieurs, et en voici une. Certains suggèrent que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, qu'il a juste failli mourir, et que pendant qu'il était dans le tombeau, dans la fraîcheur de l'air, il s'est rétabli, puis il est sorti, il a prétendu être ressuscité. Certains vont même jusqu'à suggérer que c'était son plan dès le départ. Dire simplement « je vais demander aux Romains de me tuer, mais je vais survivre parce que j'ai mangé sainement ces jours-ci et je vais tromper tous ces gens. » C'est une idée vraiment stupide. Les Romains savaient comment exécuter les gens. Ils étaient très bons dans ce domaine. Vous n'allez pas tromper un soldat romain dont la vie ou la mort dépend parfois de la certitude que quelqu'un soit mort. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était leur travail. Leur travail consistait à s'assurer qu'aucune de ces personnes ne survive, qu'elles subissent une mort agonisante. Ils étaient brutalement efficaces et savaient reconnaître un cadavre. Deuxièmement, si son plan était de survivre à une crucifixion romaine et de s'échapper d'un tombeau avec une pierre géante devant, en utilisant son corps affaibli, battu, poignardé, c'était le pire plan pour construire une religion dans l'histoire du monde. Sans parler des faits historiques, encore une fois, comme nous l'avons vu ou lu dans Tacite et Flavius Joseph, c'est un fait historique que cet homme a été réellement crucifié et est mort. Alors mettons-nous d'accord pour ne pas passer plus de temps sur ce sujet. Je vous souligne cependant à quel point ils sont désespérés d'éviter la conclusion que Jésus est ressuscité des morts. Lorsque quelqu'un trouve une idée vraiment stupide pour détruire votre idée, c'est un bon signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est pour vous dire à quel point ils sont désespérés. En voici d'autres. Est-il possible que les disciples aient tous halluciné que Jésus soit ressuscité? C'est en fait l'une des plus courantes. Elle est très populaire et la réponse est non. Car nous avons examiné les preuves historiques. Il est impossible qu'ils aient simplement halluciné un Jésus ressuscité, car le tombeau était en fait vide. Je veux dire, si vous hallucinez quelqu'un, cela ne fait pas s'évaporer son corps dans la tombe. Sans parler du fait que, même si l'on en parle beaucoup, l'idée d'une vaste hallucination partagée qui pourrait avoir un impact sur 500 personnes est absurde. Cela n'arrive tout simplement pas. De plus, il n'y a rien dans la religion juive qui incitait à s'attendre à ce que Jésus soit ressuscité. Vous lisez dans le Nouveau Testament l'histoire de la façon dont ils essaient de convaincre les Juifs. Je sais que vous attendez un Messie, qu'il vienne et reprendre la Judée et repousser les Romains. Je sais que c'est ce que vous attendez, que les dirigeants attendent. Mais vous devez nous écouter, vous comprenez mal les prophéties. Le puissant Messie devait en fait venir et mourir. Il allait réellement mourir et revenir. Ce n'était pas quelque chose que leur religion attendait. Et l'idée que tous ces gens vont halluciner quelque chose que rien dans leur foi les amenait à penser est absolument absurde. Enfin, est-ce possible que les disciples aient tout simplement menti? Est-il possible qu'il s'agisse d'une conspiration entre les disciples et que les Juifs du premier siècle, qui ont dit à l'origine qu'ils avaient volé le corps, aient en fait raison? Les disciples ont-ils conspiré et se sont dit « Hé, nous avons un plan. Nous pourrions être assez puissants, même si notre maître est mort et que tout le monde est déçu. Volons le corps et disons ensuite à tout le monde qu'il est ressuscité de la tombe. » Non, ce n'est pas une chose raisonnable à penser. Nous avons le témoignage des apôtres et des premiers disciples qui non seulement ont dit qu'ils ont vu le Christ ressuscité, mais qui était également prêt à être torturé à mort pour le confirmer. Nous avons des archives historiques de ce que les autorités ont fait aux chrétiens. Je n'entrerai pas dans les détails des tortures dont parle Tacite, mais il prenait ces personnes qui adoraient le Christ, leur Dieu, et leur disait « Admettez simplement que ce n'est pas Dieu, et nous vous laisserons partir. » Et ils ne le faisaient pas, et ils étaient exécutés et torturés. L'histoire suggère que la mort des apôtres n'était généralement pas agréable. Certains ont été crucifiés eux-mêmes. Certains ont été traînés par des chevaux dans les rues. On ne passe pas par là pour un mensonge quand les gens vous disent « La torture cessera si vous admettez que vous avez volé le corps, si vous admettez que tout ceci n'est qu'une conspiration et un mensonge. » La majorité de l'histoire de l'époque a été écrite par des personnes hostiles au christianisme. Et aucune d'entre elles ne mentionne un seul apôtre ou disciple de ce groupe, Pierre, Jacques, les autres, disant « Vous savez, vous avez raison, tout est faux. » Non! Ils montrent qu'ils ont mis leur vie en jeu et ont accepté de faire exactement ce que le Christ leur avait demandé. Reportez-vous à Acte 1, Acte 1, versets 7 et 8. Acte 1, versets 7 et 8. Lorsque Jésus-Christ les a commissionnés, ils lui ont demandé « Hé, est-ce le moment où tu vas rétablir le royaume? » Et il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Il est facile de penser que cette déclaration représente simplement le fait qu'ils sont sortis et qu'ils ont prêché, comme nous pourrions penser que notre propre témoignage se résume à l'enseignement que nous donnons, et nous oublions que c'est l'exemple que nous donnons qui rend cet enseignement réel. Les apôtres auraient pu sortir et prêcher tout ce qu'ils voulaient. Mais s'ils étaient tous morts d'une mort tranquille, entourés de leurs proches, soutenus dans leur souffrance par les personnes qui les aimaient le plus et par les personnes qui les appréciaient en tant que chefs religieux, on commencerait à se dire « Vous savez, ces gars-là ont eu la belle vie. Je peux voir pourquoi ils ont inventé ça. Regardez ce que ça leur a apporté. J'aimerais qu'on prenne aussi bien soin de moi dans ma mort. Au lieu de ça, ils ont dû faire l'expérience de la mort en tant que martyrs aux mains de bouchers et des hommes fous. Et ils ont pu répondre à chacun d'eux, « Je ne nierai pas que j'ai vu cet homme vivant et qu'il est Dieu, parce que je sais que quoi que vous me fassiez au moment où ma vie sera finie, peu importe comment j'en suis arrivé là, la prochaine chose que je verrai, c'est lui. » Ce qu'ils étaient prêts à vivre continue à résonner depuis 2000 ans. Dans la dernière prière de Jésus-Christ avec ses disciples lors de la Pâque, dans Jean 17, verset 20, il a dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Et il savait que la parole de ses apôtres allait être étonnante. Parfois, lorsque nous traversons des difficultés et des épreuves, lorsque nous n'en voyons pas le but, il est facile de ne pas réaliser que Dieu peut utiliser même certains de nos jours les plus sombres de souffrances et d'épreuves pour réaliser le bien le plus remarquable que nous puissions imaginer. Et c'est exactement ce qu'il fait avec la vie et la mort des apôtres. Ce ne furent pas de belles morts, mais à cause d'elles, nous savons que ce témoignage est vrai. Frères et sœurs, il est extrêmement raisonnable de croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Lorsque vous croyez que Jésus-Christ est sorti du tombeau, vous croyez à la meilleure explication des faits. Et parce qu'il est ressuscité du tombeau, tout ce dont nous allons parler et que nous allons célébrer pendant le jour saint est absolument vrai.